Bien, bonsoir à tous, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui sont revenus. Alan Pauls, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né à Buenos Aires, vous êtes romancier, essayiste et journaliste, et un très grand nombre de vos ouvrages a été traduit en français, d'abord chez Arcane 17, puis chez Bourgois. Alors on peut citer La pudeur du pornographe, L'instruction et Wasabi. Publié tous les trois chez Arcane 17, et puis Wasabi étant réédité chez Bourgois, Le facteur Borges, Le passé, qui était primé par un prix très important en Espagne, qui est le prix Heralde, donc paru en France en 2005, La vie pieds nus en 2007, puis la trilogie dont nous allons parler, elle aussi chez Bourgois, et nous allons parler ce soir du dernier ouvrage de cette trilogie, mais évidemment en faisant allusion aux ouvrages précédents. Donc en 2007, c'est l'histoire des larmes. En 2009, l'histoire des cheveux. En 2010, l'histoire. Pardon. En 2009, c'est l'histoire des larmes. En 2010, l'histoire des cheveux. Et en 2013, l'histoire de l'argent. Dont il faut noter que les traductions étaient presque immédiates, enfin très, très
Oui,
proches
assez proche, oui.
de la date
Oui.
de parution. Et vous êtes aussi reconnu dans le monde du cinéma, puisqu'après avoir été critique, vous êtes scénariste et même occasionnellement acteur. Je vous ai vu, vous ai aperçu dans un film. Et El Pasado, votre grand roman, a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Et vous venez de présider le 24e festival Biarritz Amérique latine. Vous pouvez nous dire en quelques mots.
Oui, ce sont trois romans qui tournent un peu autour des années 70 en Argentine, c'est-à-dire des années de plomb, mais aussi de poudre, parce que en Argentine, les années 70, c'est une décennie qui est un peu coupée en deux. Jusqu'à 1976, c'était la moitié du rêve révolutionnaire. L'Argentine, comme partout un peu en Amérique latine et même pas mal en Europe, avait développé cette idée de la révolution. Elle l'avait même poussée à son extrême. L'Argentine était vraiment dans un état pré-révolutionnaire, si vous voulez. Et après 1976, c'est le coup d'État. Donc, de 76 jusqu'à 80, c'est la terreur, quoi, la dictature militaire. Mais moi, j'avais cette envie depuis longtemps d'écrire quelque chose sur la première moitié de la décennie, c'est-à-dire la moitié euphorique, la moitié rêveuse de la décennie qui n'était pas autant écrite et pensée et réfléchie que la deuxième, non? La partie la plus sombre, la plus affreuse. Oui, c'est un peu la décennie où moi, en un certain sens, j'étais formé au sens intellectuel, artistique, érotique. J'avais 11 ans en 1970 et j'avais 21 en 1980. Donc, ce sont 10 ans très importants pour moi. Et je voulais faire quelque chose sur ça. Du point de vue de l'enfant ou de l'adolescent que je commençais à être en 70. Donc, travailler un peu sur un ensemble d'impressions, de souvenirs, de perceptions, de traumatismes que moi, en tant qu'adolescent, j'avais ressenti à cette époque-là et que je n'avais jamais articulé en mots ou en histoire ou. Et donc c'était ça que je voulais faire. Je ne cherchais pas à écrire un témoignage, mais en même temps, je voulais travailler avec un matériel qui était pour moi assez informe, mais en même temps assez fort. C'est-à-dire, je voulais travailler sur les traces que les années 70 avaient laissées sur moi. même sur les traces que j'ignorais que les années 70 avaient laissées en moi.
Je sais qu'on vous a déjà posé la question, mais les larmes, les cheveux, l'argent, qu'ont-ils en commun?
Je l'ai su ou j'ai cru le savoir après avoir fini les trois romans. Au début, c'était les trois éléments n'étaient que ce que à cette époque-là, lorsque j'ai entrepris l'écriture du premier, l'histoire des larmes, je les appelais des fossiles de l'époque. C'est-à-dire, je voulais reconstruire les années 70 à partir des larmes, à partir des cheveux et à partir de l'argent, comme si un peu ma démarche était celle d'un archéologue ou un paléontologue un peu cinglé qui essayerait de reconstruire toute une civilisation à partir de un débris de larmes, un débris de cheveux, un débris d'argent. Et après, j'ai compris que ce que les trois éléments avaient en commun, c'était qu'ils tendaient à se perdre. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport assez étroit entre les larmes, qui évidemment se perdent lorsqu'elles se versent, lorsqu'elles sont versées, les cheveux, ce n'est pas exactement mon cas, mais tout peut arriver. Et l'argent, bien sûr, qui par définition, est toujours appelé à disparaître. Donc, j'ai compris aussi que les trois romans, et que même tout le projet qui cherchait à reconstruire ces années 70 un peu imaginaires, un peu arbitraires, c'était une trilogie sur l'expérience de la perte, de ce qui se perd. Et ce sont trois éléments qui sont assez précieux, donc ce sont trois éléments aussi qui tendent à être contrefaits, justement pour se défendre un peu pour se protéger un peu de la panique de les perdre. Donc il y a les fausses larmes, en espagnol il y a cette expression que j'aime beaucoup, pleurer des larmes de crocodile. Je ne sais pas si
C'est
ça
la même.
existe en
Oui, c'est
français.
la même.
Donc c'est possible de falsifier, de contrefaire des larmes. Il y a bien entendu les perruques. Et il y a aussi, bien entendu, l'argent fabriqué. Donc, c'est un peu ça. Ce sont trois romans qui sont assez drôles pour moi. J'aime beaucoup explorer un peu le côté du rire qui vient de la terreur. Mais ce sont trois romans, je crois, assez funèbre, en un sens.
Je peux poser une
Mais bien
question?
sûr.
Oui, pourtant la réalité matérielle des cheveux, des larmes et de l'argent sont dématérialisés au cours du roman, puisque les cheveux cessent d'exister en tant que tels pour devenir des emblèmes de la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Mais pas
Oui.
forcément de la classe sociale, ça peut être l'âge, ça peut être
Oui.
une inscription ethnique, ça peut être des tas de choses, quoi. Mais on a l'impression que le roman passe, il y a un processus de dématérialisation de ces choses-là.
Oui, parce que les trois
Oui.
éléments sont, je crois, sont pris dans les romans comme des objets culturels aussi. C'est pas seulement les larmes en tant que flux biologique, c'est pas seulement les cheveux comme prolongement ou comme élément capillaire, c'est pas exactement l'argent comme une sorte d'appendice des corps, c'est surtout ce que les trois éléments ont en tant qu'emblème culturel. Je veux dire, les cheveux pour moi, c'était quelque chose de très 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 important parce que je voulais raconter un peu l'histoire des affrontements politiques des années 70 en Argentine en prenant les cheveux, les chevelures, les différentes coupes de cheveux qui étaient en vogue en Argentine dans les années 70, comme si les cheveux étaient un peu un champ de bataille politique aussi. Non? J'ai même eu cette idée en voyant un petit court-métrage que Agnès Varda avait fait à Los Angeles, je crois qu'en 69, donc une année assez politisée en France et en Californie. Varda était allé en Californie pour interviewer les Black Panthers, les Panthères noirs, parce qu'il y avait un leader, un très célèbre leader des Black Panthers, qui était Eldridge Cleaver, qui était en prison, qui avait été emprisonné. Et il y avait tout le mouvement des Panthères noirs qui avait encerclé la prison dans une attitude assez menaçante pour réclamer qu'on libère Cleaver. Et j'étais très frappé, j'ai vu ça, je crois, à la Cinémathèque à Bruxelles. C'était vraiment un accident très, très heureux. J'étais là à ce moment-là. Et le film doit faire, je ne sais pas, une quinzaine de minutes. Et Varda passait, je crois que 7 ou 8 minutes, donc à peu près la moitié du film, à enregistrer avec sa caméra une discussion entre les Panthères noirs, les militants, qui revendiquaient la coupe afro au même titre qu'ils revendiquaient, je ne sais pas, le choix des armes ou la bibliographie marxiste-léniniste ou le besoin de prendre le pouvoir par les armes. Donc j'ai vu ça et j'ai dit, bon, on ne peut pas dire que les Panthères noirs soient des gens frivoles. Parce que une des questions que je me posais en commençant le roman, l'histoire des cheveux, c'était, bon, est-ce qu'on va pas me dire, écoute, c'est complètement fou, tu veux reconstruire une décennie très 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 importante, très transcendantale, à partir d'un élément complètement frivole, complètement superflu. Et c'est vrai que c'est superflu, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est justement de reconstruire ce qui est très important à partir du superflu. C'est pouvoir lire, c'est en ce sens que je parlais de fossiles, de pouvoir lire sur un élément qui est à première vue complètement insignifiant, des mouvements, des forces, des phénomènes, des expériences qui n'ont rien de frivole. Donc pour moi, cheveux, larmes, les larmes, c'est... J'ai toujours été frappé que Saint Ignace de Loyola avait ce journal de larmes. C'est Barthes qui parle de ça. Et donc, les larmes, c'est quelque chose de très physique, très corporel, mais en même temps, Loyola voyait dans les larmes toute une série de signes, d'indices qui lui signalaient, lui faisaient remarquer jusqu'à quel point il était vraiment investi dans sa foi religieuse. Donc, bon, et l'argent, c'est bien entendu quelque chose qui est immédiatement culturel. Donc, c'est vrai que c'est immatériel ou que ça devient immatériel, mais je dirais que même avant, c'est immatériel. Avant d'être matériel, c'est même immatériel, non? C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens aujourd'hui, avec la biogénétique, veulent que les enfants aient des cheveux blonds ou noirs. Donc, il y a quelque chose qui est culturel avant le biologique. Je dirais que le biologique, c'est quelque chose qui dérive du culturel.
Mais tu dis quand même que la blondeur est associée à la bourgeoisie, hein, parce que
Ah oui, bien sûr.
je te raconte une anecdote. La première fois que je t'ai vu, c'était à Saint-Nazaire. Il y avait un colloque sur la littérature latino-américaine. Et j'étais allé avec Nicole Zante, qui à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens d'elle,
Oui.
qui écrivait au Monde.
Oui.
Et tu étais très blond, non?
J'étais, oui, j'étais
Ah oui,
très
bon, voilà,
blond,
parce qu'elle m'avait
parce que j'étais
dit,
jeune, oui.
qui c'est ce blond qui est passé? Et je lui ai dit, c'est un joueur de football. Alors, il dit, ah bon, un joueur de football? Mais c'est pas possible.
N'y avait pas de joueur de football blanc
C'est pas
à cette
possible.
époque-là.
Ah
Non,
bon?
non, non,
C'est un
c'est
joueur de
vrai.
football, mais qui écrit comme, comme un Brésilien, je ne me souviens plus lequel. Je lui ai dit, c'est un joueur de football qui écrit. Et elle me dit, ah bon, mais c'est possible. Je dis, bah oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible, mais en Argentine, pas chez nous.
Oui, parce qu'en Argentine, on vient des. On a tous des origines européennes. Non, mais c'est vrai, en Argentine, dans les années 70, moi, qui étais blond, j'étais un fils de bourgeois, immédiatement, même sans savoir si j'étais ou pas fils de bourgeois, si je faisais partie de la bourgeoisie ou de la classe moyenne. Et même si j'étais, je ne sais pas, de la classe moyenne et si j'étais marxiste-léniniste, j'étais quand même bourgeois parce que j'étais blond.
Le
Donc
blanc, c'est la bourgeoisie.
je devais me prolétariser doublement ou triplement parce que j'étais blanc. Et c'est un peu ce que je raconte là dans le roman, que ce personnage qui est complètement fou parce qu'il veut avoir une coupe afro. Et il a les cheveux
Oui.
lisses et lisses ou raides, non? Lisse,
Lisse,
lisse et
il y
blanc.
a les
Donc
deux.
c'est un désastre pour un gosse qui veut être révolutionnaire. C'est un désastre. Il est complètement foutu par la biologie.
Mais vraiment?
Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Je veux dire, si tu avais les cheveux lisses et blancs en Argentine en 1973, il fallait faire des efforts pour démontrer une vraie volonté, une vraie conviction révolutionnaire. Parce que tu étais, par exemple, tu étais riche. Si tu étais blond, tu étais riche. C'est comme ça. Mais ça, c'est culturel, bien entendu. Ce n'est que de la culture. Oui, c'est un peu ça, oui.
Oui, ou des préjugés, non?
Oui, mais j'inclus, pour moi, la culture, ça comprend les
Oui.
préjugés. C'est même basé sur les préjugés. Mais bon, si les cheveux n'étaient pas culturels, n'étaient pas un objet vraiment culturel, on ne comprendrait pas que, par exemple, on a payé 120 000 dollars pour acheter une mèche de cheveux du Che Guevara. Ce qui est effectivement arrivé, je crois, il y a une quinzaine d'années. Il y a quelqu'un qui, je crois qu'un militaire de Bolivie qui faisait partie de la patrouille qui a saisi le Che Guevara en Bolivie et lui avait coupé une mèche de cheveux avant qu'on prenne le cadavre du Che. Et il a gardé cette mèche de cheveux avec lui pendant. Le Che Guevara, il est mort en 67, donc 40 ans. Donc le prix avait vraiment monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il a vendu ça en 120 000 dollars. C'est pas un bout de corps qu'on a acheté. C'est un bout d'un corps complètement mythique. Donc c'est un morceau de mythe. Mais c'est pour ça que le frivole est intéressant, toujours. C'est pour ça que quelqu'un comme Walter Benjamin était capable aussi de lire, je ne sais pas, le 19e siècle ou la modernité dans des trucs très, très stupides, non? Très, très insignifiants.
On peut, voilà, peut-être passer à l'histoire de l'argent ou c'est le terme d'une progression, c'est-à-dire les larmes, les cheveux, l'argent, c'est une progression dans les âges de la jeune vie de ce narrateur. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même narrateur, déjà dans les trois,
Oui,
sans
je
briser un
crois,
tabou
oui, je
littéraire, mais.
crois. C'est le même narrateur, certainement, et c'est peut-être le même héros, c'est peut-être le même monde de famille.
Familial,
Je crois
oui.
que il n'y a pas une progression, je ne dirais pas qu'il y a une progression. Je crois que les trois romans peuvent se lire dans n'importe quel
D'accord.
ordre. Il n'y a pas une continuité narrative, ce sont plutôt des romans qui sont bourré d'histoire, mais qui n'ont pas une direction un sens narratif très, très défini. Mais oui, je dirais que ce sont trois romans qui ont un certain air de famille, qui partagent un certain air de famille.
Voilà, alors justement, est-ce que le dernier d'entre eux n'est pas celui où l'équilibre entre voilà, le propre et l'intime d'un côté et l'arrière-fond historique ou politique de l'autre penche un peu plus du côté de l'intime, penche un peu plus du côté familial?
Ah, je ne dirais pas,
Non?
mais j'aimerais bien discuter l'hypothèse. Moi, je ne dirais pas.
Ouais.
Pour moi, l'argent, c'est le dernier, c'est vraiment. Je crois que c'est très bien articulé. Très
Ah,
bien.
c'est très bien articulé.
J'aime bien l'articulation que je cherchais là-dedans entre une certaine idée complètement délirante d'économie nationale, de société. Qui est l'économie, historiquement l'économie de l'Argentine depuis, je ne sais pas, 1955 peut-être, donc un bon demi-siècle, et cette économie complètement délirante de la famille qui caractérise la famille du héros. Pour moi, c'est vraiment là, c'est très synchrone, je
Ah oui,
dirais.
la synchronie est parfaite, mais les deux motifs pour poser cette question, dont je n'avais évidemment pas la réponse, ce sont d'une part la place quantitative, hein, à mon idée, plus importante qui était consacrée au père et à la mère, et sous une modalité peut-être plus pathétique ou plus tragique, qui la faisait peser un peu dans l'économie de l'œuvre. Et le deuxième argument, c'était pas un argument, la deuxième idée, le deuxième motif, c'était. Cette figure, je ne sais pas si épiphanique, mais dans les deux premiers, du tapado, c'est-à-dire de la révélation progressive ou de la netteté progressive d'une figure historique contextualisée dans le premier, cette voisine, ce travesti, dans le second, par l'intermédiaire de son fils, ancien combattant de cette figure de la Révolution, alors que le contextuel, dans le dernier, me semblait posé d'emblée. Mortiféré, mortifère, et peut-être après, oui, dilué dans quelque chose qui était beaucoup plus effectivement compatible ou homogénéisable avec l'histoire familiale. Voilà, c'était les deux motifs de ma question.
Non, je ne sais pas, je ne vois pas comme ça exactement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas dans le troisième une figure qui
Bien sûr.
représente en un sens l'histoire ou la dimension historique ou politique publique de la période. Mais pour moi, justement, je voulais dans ce troisième roman, je voulais que tout soit un peu immanent à la question de l'argent, qu'on puisse reconnaître. Mon idéal, c'était que quelqu'un qui lit ce roman peut dire, bon, à quoi ça correspond ce comportement économique? C'est l'Argentine. Donc, même sans savoir que moi, j'étais argentin et que j'étais en train de raconter une histoire qui se déroulait dans un pays comme l'Argentine. Je voulais caractériser cette psychose économique. Et que cette psychose économique, comme loi d'une économie de société, fut aussi la psychose, la loi de l'économie d'une famille qui ne croit qu'au gaspillage et aux stratégies pour faire disparaître de l'argent.
Oui, parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est magnifiquement agencé. Et bon, il y a plusieurs façons d'aborder l'argent, et celle-là est anthropologique, c'est-à-dire l'argent comme ce qui traduit ou qui exprime hein, la cupidité, la prodigalité, l'avarice. Effectivement, pas de. Enfin, voilà, vous ne cédez jamais à la facilité, et là, la facilité aurait été une espèce de position morale ou de reformulation de la crématistique, c'est-à-dire le moyen qui devient une fin. Vous, au contraire, vous insistez sur une forme de matérialité. Au niveau de votre jugement sur l'argent, il est tellement plastique l'argent dans votre roman que
Ouais.
voilà, il n'y a pas de.
Oui, en même temps, je ne parle que de l'argent liquide.
Oui, c'est pour ça.
Donc, ce n'est pas plastique au sens où carte de crédit.
Non, mais
Mais pour moi, c'était vraiment très important parce que l'Argentine, c'est un pays d'argent liquide. On ne fait confiance qu'à l'argent liquide parce qu'on ne peut pas supporter le rapport bizarre qu'il y a toujours, le rapport temporel qu'il y a toujours entre l'argent et la confiance qu'il faut faire pour accepter l'argent plastique ou le chèque ou n'importe quelle forme de paiement qui soit symbolique et qui exige du bénéficiaire une certaine attente. Nous, on ne peut pas attendre. Donc l'argent, c'est l'immédiat, c'est maintenant. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est quelque chose qui vraiment est très caractéristique non pas de l'économie argentine, ou peut-être aussi, mais de la façon dont les Argentins pensent à l'argent et se débrouillent avec l'argent. Et pour moi, par exemple, un détail de l'histoire de l'argent que je voulais bien raconter, cette petite scène où c'est l'été, le petit enfant est en train de... ses parents se sont séparés, il attend que son père passe le chercher pour l'amener à une plage, pour passer une vingtaine de jours avec lui. Il a passé janvier avec sa mère, il va passer, c'est la promesse de son père, une vingtaine de jours avec son père dans une autre plage qui est à 150 km de la plage où il attend. Il a les billets pour le bus, c'est lui qui a voulu les acheter. Son père est en retard, il ne vient pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Et l'enfant, il dit, bon, on va perdre les billets du bus. Il ne pense pas, il est très petit, il ne pense pas qu'on peut acheter d'autres billets. Il croit que si on perd ces billets-là, c'est foutu. Et c'est foutu aussi, les 20 jours de plage avec son père, c'est foutu aussi. Le père apparaît et lui, le petit enfant, il est complètement désespéré. Et le père, il dit, écoute, t'en fais pas, on va prendre un taxi. L'enfant, il dit, mais comment on peut faire 150 km dans une autoroute en taxi? C'est complètement c'est de notre monde. Et non seulement ils font le voyage en taxi, 150 km, mais le père, il paye en liquide. Et lui, l'enfant, il voit le père, presque pour la première fois, mettre sa main dans sa poche et tirer un paquet de fric comme ça, des billets. Et ça, c'est l'argent pour lui. C'est quelque chose, c'est comme un objet, c'est quelque chose de si solide, de si matériel, que l'argent restera ça pour lui pour toute sa vie.
Et justement, alors cette matérialité de l'argent et son articulation avec le roman familial, est-ce que c'était là le biais pour vous de, puisqu'il est matériel cet argent, qu'il peut être laissé, est-ce que c'était pour vous le biais de l'articuler avec la transmission et l'héritage qui peuvent être laissés à ce narrateur?
Oui, parce qu'il s'agit de ça. C'est, tout le roman va vers ça, vers le problème du legs, de la transmission, de ce qui reste des parents. Et même, c'est vrai qu'il n'y a pas de révélation comme dans l'histoire des larmes et dans l'histoire des cheveux, mais ce qui se révèle quand même à la fin du roman, de
On
l'histoire de
fait la mère, bien
l'argent,
sûr.
c'est justement ça.
Oui.
Qu'est-ce que le père lui laisse? Qu'est-ce
Que la mère
que
lui
la
laisse.
mère lui laisse? Et là, il y a des surprises, je crois, même pour le héros qui sait qu'en termes matériels, en termes d'argent, de richesse matérielle, il ne va rien recevoir, il ne va rien y rester. Mais quand même, il y a son père et sa mère lui laissent un souvenir, au moins, qui est assez surprenant, je crois, pour le héros. Et c'est un peu un moment pour moi d'une certaine rédemption, si tu veux, de ces deux personnages qui sont assez compliqués, le père et la mère, non? Surtout dans ses rapports à l'argent.
Bon, une petite parenthèse, le roman est très drôle. Hein. Alors moi,
Ah, j'espère,
oui, il
oui.
est très drôle, il faut le répéter, vous l'avez dit et je le redis voilà, avec insistance, notamment toujours dans le rapport à l'argent et la façon dont on le perd, ces travaux qui font écho à cette maison La Vestia qui engloutit tout. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une littérature des travaux catastrophiques. en France, oui, vous plaisantez Monsieur Tanner. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui est adapté au cinéma de Jean-Paul Dubois. Mmh. Voilà, qui est l'histoire d'une catastrophe des travaux annoncés. Voilà, donc voilà. Et le roman est très drôle dans les dysfonctionnements prévisibles et imprévisibles de cette maison que le couple de la mère achète et voilà, et où l'argent s'engouffre et ne revient jamais avec cet architecte ex-rugbyman.
Ex-rugbyman, voilà, oui.
Qui est responsable de cette disparition.
Oui, on n'a pas en Argentine, on n'avait pas. Maintenant, on en a, mais on n'avait pas. Il n'y avait pas de joueurs de football blonds, mais il y avait des architectes qui étaient ex-rugbymen. Oui. C'est une singularité argentine. Oui, pour moi, le roman, j'ai écrit ce roman avec deux idées en tête. C'était d'un côté, j'avais l'idée d'écrire un roman qui fut comme un roman porno, mais où les scènes de sexe devait être remplacé par des scènes d'argent, ce que j'appelais des scènes d'argent. Donc l'argent devait être présent dans toutes les pages du roman, d'une certaine manière. Je ne savais pas comment, mais je voulais que le lecteur puisse feuilleter le roman et dire, bon, je veux la prochaine scène d'argent. Comme parfois on feuillette un roman qu'on nous a dit qu'il était un peu piquant. Bon, je vais voir la prochaine scène de sexe ou de. Et ça, c'était une idée. Et l'autre idée, c'était de. C'était un roman d'argent explicite. Mmh, comme on dit, des romans de sexe explicite. Et de notre côté, d'écrire un roman qui, en un sens, puisse fonctionner comme un manuel. Des instructions pour savoir comment gaspiller de l'argent. Non pas comment investir ou comment gagner de l'argent. On en a des tas de bouquins qui essayent de nous apprendre ça. Mais je crois que il n'y a pas de bibliographie qui apprenne à gaspiller l'argent avec astuce, avec créativité, avec inspiration. Donc je voulais que le roman puisse être lu de cette perspective-là aussi, non? Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qui peut être utile. Pas blanchir de l'argent, mais directement la faire disparaître. Comment la faire disparaître? J'aime beaucoup ces romans ou ces histoires où le héros doit se défaire d'une quantité d'argent et il n'y arrive pas. Là, j'ai toujours aimé ce principe de récit qui est pas mal fréquent, je crois. Je pourrais même citer, je ne sais pas, 3 ou 4 films qui ont un peu cette prémisse. C'est un peu la même histoire ou le même principe que se défaire d'un cadavre. Non, comment faire pour faire disparaître quelque chose qu'on doit faire disparaître. Oui.
Oui, d'ailleurs, le porno, c'est vrai que vous avez beaucoup expliqué l'analogue entre les deux, le caractère explicite, ouais, effectivement. Et le porno apparaît justement par le biais du cinéma chez ces pauvres, dans ce ciné-club du troisième âge, ou ouais, par erreur. Alors qu'on vient de parler de l'or, je crois. Donc je me suis dit, est-ce que ça.
Oui, c'est ouais, ça. Oui,
on vient de parler de l'or. Et, voilà.
Absolument.
Et du coup, je me suis dit, voilà, mais est-ce que ça renvoie à cette épiphanie bondienne dont vous parlez dans La vie d'Adescalso, où votre première vie. Alors, c'est pas de la pornographie, c'est de l'érotisme, on peut parler de la différence après, mais elle est couverte d'or. Elle est nue,
mais
couverte d'or.
Voilà, ouais. Pour moi, voir ce plan de Bond où la femme est complètement nue, mais peinte en or, c'était, je crois, de Russie, non, Russie.
C'est Goldfinger.
Ouais. C'est ça, exactement, Goldfinger. Pour moi, je crois que c'est la première scène porno que j'ai vue dans ma vie. J'avais, je ne sais pas, je crois, 8 ou 9 ans. Mon père avait un flirt avec la propriétaire d'un cinéma, d'une petite salle de cinéma dans une plage. Et on nous faisait entrer pour voir des films qui étaient interdits aux mineurs. Donc à 9 ans, je crois que les Bond à cette époque-là en 70, 69, 70, était interdit aux mineurs de 16 ans, je crois, en Argentine. À raison, bien sûr, parce qu'il y avait des femmes nues, non seulement nues, mais complètement en or. Donc c'était vraiment la mise en valeur de la pornographie, non? Et pour moi, c'est vraiment, c'était une scène porno. C'était complètement éblouissant, mais je ne comprenais pas. Moi, j'ai cru vraiment que toutes les femmes nues étaient en or. Oui, oui.
D'où la relation entre les
femmes. Très cher, très très cher. Oui. Très cher.
Tarification, là.
Et c'est vrai. C'est vrai.
Bon, quand même, j'ai quand même le temps pour une petite dernière question sur l'avenir, sur ce que vous nous promettez en termes de parution. Alors, la trilogie est achevée. Il n'y aura pas une quatrième histoire 2. S'il y avait une quatrième histoire 2, ça aurait été une histoire, pas des chaussures parce que vous êtes pieds nus sur la plage, mais ça aurait été un objet pop. Mais
l'histoire des ongles.
Ah, voilà. C'est la question. Bon, comme j'aime les cheveux, revenez aux cheveux.
J'aime beaucoup les ongles, oui, oui. Mais non, je prépare maintenant un petit bouquin sur. C'est un essai biographique sur un metteur en scène de cinéma chilien qui a vécu en France très longtemps, c'est Raoul Ruiz. À l'origine, c'était une commande assez simple. J'avais terminé la trilogie. J'avais besoin de changer complètement de sens, de direction. Et j'ai pensé qu'un petit livre comme ça, un essai biographique sur un metteur en scène que j'aimais beaucoup, c'était comme un peu la coupe de champagne et de sorbet de citron qu'on prend pour changer de plat dans un restaurant. Et c'est devenu un projet très compliqué, bien sûr très intéressant, beaucoup plus intéressant que s'il avait été une coupe de champagne avec du sorbet de citron. Mais ça m'a mis beaucoup plus de temps. Je pense le terminer en décembre, janvier, et j'essaye de qu'il soit publié en, je ne sais pas, mai, juin, juillet, l'année prochaine. Je crois qu'il va y avoir une grande rétrospective Ruiz à la Cinémathèque française à Paris. Donc j'aimerais bien que ce livre puisse accompagner d'une certaine façon cet événement. Donc c'est ça. Et je compte me mettre à écrire un roman après avoir fini le Ruiz.
Vous avez vu le silence que l'annonce a... La tension accrue que l'annonce a créé. Bon. Merci beaucoup.
Non, merci à vous, à vous tous, et surtout à vous deux. Bon.